بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 2 du mois Rabi al-Awwal de l'année 1447 de l'Hégire, correspondant au 15 août 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de ce livre de Cheikh Saleh al-Fawzan, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance, l'actuel mufti d'Arabie Saoudite, le très grand savant connu pour tous les gens de Al-Sunnah wal-Jama'a, Hafidhahullah. Son livre intitulé « Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat » donc des notices et des rappels sur des règles et des jugements qui sont propres aux femmes croyantes. Et comme je l'ai rappelé à plusieurs fois, il est très important d'apprendre les règles spécifiques et propres aux femmes, pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Les maris ont la responsabilité d'enseigner à leurs femmes ces règles-là. Et parmi les meilleures formes de bienfaisance que puisse avoir un mari envers son épouse, c'est de lui enseigner sa religion. À commencer par la science la plus importante, la science de Tawhid, et aussi toutes les règles qui concernent la jurisprudence, notamment celle qui est spécifique à la femme. Avant de commencer notre lecture, je vais parler d'un point extrêmement important à connaître pour les hommes comme pour les femmes avant le mariage. Car la connaissance et la maîtrise de ce sujet permet d'arriver plus facilement à une compatibilité, une bonne entente entre les époux. Et ce sujet est d'une grande importance pour les hommes comme pour les femmes. Car comme vous savez, les hommes et les femmes ont des natures différentes l'un de l'autre et de plusieurs points de vue. Et je vais essayer en début de chaque cours de parler d'un aspect. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'aspect apparent, l'aspect physique, l'aspect biologique. La femme est différente de l'homme. Et le fait de savoir, il y en a souvent, il y a des problèmes qui naissent dans le couple suite à une mauvaise interprétation. La femme, elle agit d'une certaine manière, son mari l'interprète comme il l'aurait interprété si jamais c'était lui qui avait fait cette chose-là. Et ça, c'est pas juste. Et du côté de la femme, elle peut tomber dans la même erreur. Elle interprète le comportement de son mari comme elle l'aurait interprété chez une femme. Et ça, c'est pas juste non plus. Donc, on commence par les aspects physiques et biologiques et fonctionnels chez l'homme comme chez la femme. Donc, déjà, biologiquement, il est démontré que le sang de l'homme est de 20 fois plus dense et plus épais que le sang de la femme. À peu près, enfin, j'ai dit 20 fois, 20%. Il est de 20% plus épais que le sang de la femme. Et c'est ce qui donne aux hommes la capacité d'avoir plus d'oxygène que les femmes. Et du coup, l'énergie chez un homme est plus grande que celle chez une femme. Bien évidemment, quand on va parler de ces points qui différencient l'homme de la femme, c'est des choses qui seront citées d'une manière générale. Quand on dit l'homme est plus fort physiquement que la femme, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des femmes qui sont plus fortes physiquement que des hommes et des femmes qui peuvent être plus grandes de taille que des hommes et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que ça, c'est d'une manière générale. C'est ainsi chez l'homme et c'est ainsi chez la femme d'une manière générale. Lakin, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des exceptions, et ça existe. Lakin, on peut dire à peu près 80% des hommes seront comme ça et 80% des femmes seront ainsi. Également, un autre point biologique chez l'homme, c'est la présence de l'hormone de la testostérone. Cette hormone de la testostérone est présente dans le corps de l'homme de à peu près 1000% plus que chez la femme. Il y en a 10 fois plus. L'homme a 10 fois plus que la femme de testostérone. Et cette hormone, elle est connue pour être parmi les plus grands responsables dans le corps de l'audace, des initiatives et de la concurrence et de chercher les exploits et les réussites, et ainsi de suite. Également, un autre aspect physique, apparent, il est constaté que l'apparition des rides parviennent plutôt chez les femmes que chez les hommes, d'une manière générale. Également, un autre aspect physique, la longueur des cordes vocales chez les hommes. Les cordes vocales sont plus longues que les cordes vocales chez les femmes. C'est ce qui explique que la voix des hommes peut être plus forte que la voix des femmes, qui en général une voix douce. Et subhanallah, vous allez à chaque... on ne va pas rentrer dans les détails par rapport à chaque point. Lakin, chaque point qui différencie la femme de l'homme ou l'homme de la femme, c'est quelque chose qui correspond à la nature de cet homme ou de cette femme et qui lui permet de remplir ce que Allah veut de lui de la manière la plus complète et la plus parfaite. Donc, ça correspond totalement à sa nature et à comment doit être cette personne. Yani, quand elle est proche de sa nature humaine, saine. Et d'après yani, une étude qui a été faite sur un échantillon d'hommes et de femmes, ils ont exposé cette situation à des hommes comme à des femmes. Yani, si ton partenaire est gravement malade et qu'il a besoin d'un médicament rapidement vendu en pharmacie, à un prix que tu ne possèdes pas. Est-ce que tu acceptes de le voler pour sauver la vie de ton partenaire ? La plupart des hommes, sans hésitation, leur réponse était oui. Et que, même si c'est quelque chose qui ne doit pas se faire, lakin, sauver une vie prévaut sur le respect de cette valeur morale. Contrairement aux femmes, qui n'ont pas répondu directement et qui ont posé des questions. Est-ce que c'est possible, comme par exemple, est-ce que c'est possible d'essayer de négocier avec le pharmacien, d'emprunter, d'essayer de voir avant d'arriver à yani, ne pas respecter cette valeur morale. Et ça indique bien, et aussi yani, de poser des questions au sujet des conséquences de cet acte. Donc on constate une certaine prudence chez la femme et une yani, prudence et de mesurer les conséquences contrairement à l'homme qui est en général animé de cette audace et cette envie d'aller vers l'avant et un peu même de violence, ça ne va pas à l'encontre de sa nature. Et selon d'autres études, il a été démontré avec des statistiques que La violence est un phénomène qui se trouve le plus souvent chez les hommes, beaucoup plus que les femmes. La violence, c'est quelque chose qu'on trouve le plus souvent chez les hommes. C'est pour ça que la plupart de ceux qui font des crimes, c'est des hommes. Le phénomène est en lien avec justement avec cette hormone de la testostérone, l'hormone de la virilité, comme ils l'appellent. Et ils ont trouvé même que les plus grands criminels en général ont des chromosomes d'hommes et un certain pourcentage de testostérone plus élevé que les autres. Donc, ils ont conclu que cette hormone est une des causes principales de l'audace et d'un certain courage et bravoure et d'initiative chez l'homme, que ce soit dans le bien comme dans le mal. Après, c'est l'homme qui va orienter ce courage vers le bien et cette audace vers le bien ou vers le mal. Contrairement à la femme, biologiquement, elle a des caractéristiques qui correspondent à sa nature. La femme, elle manifeste plus de tendresse et de délicatesse, plus de douceur et de gentillesse, plus de goût et plus de maîtrise pour les femmes ont plus de facilité pour les langues que les hommes d'une manière générale. Et les hommes ont plus de facilité avec les choses et les objets. Et les femmes ont plus de facilité avec les personnes et les individus. Taïf. Également, il y a un autre point qui est souvent abordé, il y a la conduite. Est-ce que la femme est meilleure que l'homme dans la conduite ou c'est l'homme qui est meilleur? L'homme a plus de facilité avec les dimensions dans l'espace, l'estimation des distances, de la longueur et de la largeur, des volumes, des poids, il a plus le sens de la direction, et ainsi de suite. Et la femme, d'une manière générale, elle peut avoir moins de facultés à ce niveau-là. Par contre, elle est plus forte dans la prudence et l'estimation des conséquences dangereuses. La femme est beaucoup plus prudente que l'homme. Et elle montre moins d'imprudence que l'homme. Et c'est pour ça que les femmes, en général, respectent les limitations de vitesse, contrairement aux hommes. Et justement, à cause de ce point, la faiblesse par rapport au fait de se repérer dans l'espace, de l'estimation des distances et de la direction, elle peut avoir certaines difficultés à conduire dans les embouteillages et aussi dans les virages. Et aussi pour garer la voiture. Elle peut avoir plus de difficultés que l'homme par rapport à ce côté-là qui vient d'être cité. Donc ça, c'est le premier point par lequel on va commencer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Après, nous allons parler de la différence entre l'homme et la femme par rapport aux trois phénomènes que connaît la femme, qui sont les menstrues, les louchis et la grossesse. Avant d'arriver au point, un des points qui nous intéresse ici, c'est les différences sexuelles entre l'homme et la femme. Taïb. Donc par rapport à notre cours de la semaine dernière, nous avons parlé des 5 points, ils sont bien au nombre de 5 nains. Les 5 points dans lesquels se différencie la femme de l'homme dans la salat. Le premier, on a vu, c'est que c'est pas obligatoire pour la femme de faire l'adhan ni l'iqama. Lakin, on a vu que la vie juste, c'est que ça reste autorisé. Ça reste autorisé, même recommandé, du moment qu'elle n'est pas en présence d'hommes étrangers. Et Ibn Abi Shayba a rapporté de notre mère Aïcha radiallahu anha qu'elle faisait l'adhan et l'iqama chez elle. Le deuxième point, l'aura de la femme durant la salat, et qu'elle doit se couvrir entièrement, excepté les mains et le visage, et qu'elle doit couvrir ses pieds. Là qu'il les mains et le visage, elle ne les couvre pas, sauf quand elle est en présence d'hommes étrangers. Le troisième point, par rapport à comment elle se met dans la salat, la posture de la femme dans la salat, et on a vu que ce qui est juste, Wallahu a'lam, c'est que la femme fait exactement comme l'homme dans la salat. Le quatrième point, quand un groupe de femmes font la salat ensemble, est-ce qu'il est légiféré déjà qu'elles fassent la salat en groupe et qu'elles désignent l'une d'entre elles pour les diriger dans cette salat? Et ce qui est juste, comme a dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, c'est que c'est recommandé de faire salat en groupe, car les arguments qui sont rapportés par rapport au mérite de la salat en groupe concernent les hommes comme la femme. Et il n'y a rien qui exclut les femmes de tous ces mérites. Et elles désignent une femme pour les diriger dans la salat, lakin, elle se met dans le même rang qu'elle. Et s'il y a plusieurs rangs, elle se met dans le premier rang. Avec les femmes qui sont dans le premier rang, elle se met au milieu du rang. Elle les dirige. Elles la suivent dans la salat. Le cinquième et le dernier point, c'est l'autorisation de sortir pour assister à la salat et ou bien d'une manière générale dans la mosquée. Des rappels, des cours, ça c'est autorisé pour les femmes. Et le Nabi alayhi sallam a interdit aux hommes d'empêcher les femmes quand elles souhaitent sortir pour les mosquées. Lakin, à condition de respecter 5 points que Cheikh Hafidhahullah 6. Combien de points il a cité? 6. Non, 6. À condition de respecter 7 points qu'il a cités. Donc on va commencer par le premier. C'est d'ici que commence notre cours d'aujourd'hui. Il a dit: وَإِذَا خَرَجَتِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاتِ الْآدَابِ التَّالِيَةِ. Quand la femme sort pour assister à la salat à la mosquée, il est obligatoire pour elle de respecter ces règles de politesse qui seront mentionnées par la suite. Le premier, أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل. Le premier point, elle doit se couvrir et porter le voile intégral. Elle doit se couvrir avec les vêtements et porter le voile intégral. Hijab al-kamil. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. Donc comme il a été rapporté de notre mère Aïcha رضي الله عنها, elle a dit que les femmes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, elles faisaient la salat avec le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. Et ensuite, elles s'en allaient sous leur voile. Mutalaffi'atun bimurutihin, thumma yanqalibna ila buyutihin hina yaqdina as-salat. لا يعرفهن أحد من الغلس. Et ensuite, elles repartaient chez elles, couvertes par leur voile, au point que personne ne les reconnaissait. Elles sortaient dans l'obscurité. Ça veut dire qu'elles sortaient rapidement. Après avoir terminé la salate, elles rentraient chez elles, toujours couvertes avec leur voile intégral. Ça, c'est le premier point. Yani, la femme qui souhaite sortir pour assister à la salate, à la mosquée ou assister à un cours, elle doit respecter les conditions du voile que nous avons vues précédemment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. أن تخرج غير متطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. Donc le deuxième point, elle doit sortir sans se parfumer. Comme il a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit n'interdisez pas aux servantes d'Allah les mosquées d'Allah, mais que celles-ci sortent non parfumées. Mais que celles-ci sortent non parfumées. Rapporté par Ad-Darimi, Ad-Darimi, wa Ibn Khuzaymah, wa Ibn Hibban, wa Ahmad. Et la signification de Tiafilad dans le hadith, c'est non parfumé. Également, il a été rapporté selon Abu Hurayra radiallahu anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. Donc rapporté de Nabi عليه الصلاة والسلام, comme dans l'authentique de l'imam Muslim, il a dit toute femme أيما امرأة أصابت بخورا, toute femme ayant parfumé ses vêtements par de l'encens, yani, c'est aussi une catégorie de parfum. Elle peut se parfumer avec de l'encens, avec le bukhur. Il dit toute femme s'ayant parfumé avec de l'encens, parfumée avec de l'encens, alors qu'elle n'assiste pas avec nous à la salade de l'Isha, qu'elle n'assiste pas avec nous à la salade de l'Isha. Wa rawa Muslim min hadith Zainab imra'at ibn Mas'ud radiyallahu anhu idha shahidat ihdakunna al-masjida fala tamassu tayyiba. Donc l'imam Muslim également a rapporté de Zainab, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, le grand faqih, elle a dit la femme qui souhaite assister à la salat, à la mosquée, alors qu'elle ne touche pas du parfum. C'est-à-dire qu'elle ne se parfume pas. Qu'elle ne se parfume pas. قال الإمام الشوكاني فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة. Donc, Shawkani, rahimahullah, a rapporté dans son célèbre livre Nail al-Awtar, il a dit que ce hadith indique le fait que la femme, il a dit, ce hadith indique que la sortie des femmes pour les mosquées, elle est autorisée si ceci n'est pas accompagné, si cette sortie n'est pas accompagnée d'une quelconque fitna. Si cette sortie n'est pas accompagnée d'une tentation, qu'elle ne devient pas une source de tentation. Elle sort pour le bien, lakin, ça ne doit pas être une cause de tentation, accompagnée d'une fitna. وَمَا هُوَ فِي تَحْرِيكِ الْفِتْنَ. Que ce ne soit pas accompagné d'une fitna, ou quelque chose qui incite à la fitna. Ou quelque chose qui incite à la fitna, à la tentation. Comme l'utilisation de l'encens et du parfum d'une manière générale. Et il a dit aussi وَقَدْ حَصَلَ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَقَدْ حَصَلَ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْإِذْنَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي خُرُوجِهِنَّ مَا يَدْعُو مِنَ إِلَى الْفِتْنَةِ مِنْ طَيِّبٍ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ أَيِّ زِينَةٍ. Et on déduit également de ces hadiths que l'autorisation aux femmes d'aller à la mosquée pour les femmes de la part des hommes, c'est dans le cas où ceci n'est pas une cause de tentation ou ce qui incite à la tentation, tel que l'utilisation de parfums ou le port de bijoux ou l'embellissement d'une manière générale qui peut être une incitation à la tentation. Fin de sa citation. Le troisième point. Allah takhruja mutazayyinatan bithiyab wal huli. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. Donc le troisième point, c'est de ne pas se parer de vêtements et de bijoux, de ne pas sortir en s'embellissant par des vêtements. Des vêtements qui sont des embellissements en eux-mêmes, qui comportent des motifs, des décorations, ou qui montrent des parties du corps, ou des vêtements d'une couleur qui attire le regard des gens. Et qu'elles ne s'embellissent pas non plus avec des bijoux. Comme a dit notre mère Aïcha radiallahu anha, elle a dit notre mère Aïcha radiallahu anha a dit, si le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait vu chez les femmes ce que je vois chez elles, si le Nabi alayhi salam avait assisté à ce manque de respect chez les femmes pour les règles religieuses qui concernent la femme souhaitant assister à la mosquée, il l'aurait interdit d'assister à la mosquée, comme ceci a été interdit pour les femmes des fils d'Israël, comme ceci était interdit pour les femmes des fils d'Israël. Cela veut dire que ce non-respect des règles n'avait pas lieu à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Il a eu lieu après lui. Et Aïcha radiallahu anha a assisté à cela. Elle a vu que les femmes ne respectaient plus les règles dans leur sortie pour les mosquées. Et elle a dit, si le Nabi alayhi salam avait vu ça d'elle, il l'aurait interdit d'aller à la mosquée, comme ça a été interdit pour les femmes des fils d'Israël. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار على قول عائشة رضي الله عنها. Donc Shawkani رحمه الله a commenté la parole de Aïcha رضي الله عنها. Il a dit, toujours dans son livre نيل الأوطار, dans lequel il explique منتقى الأخبار du grand-père de Ibn Taymiyyah رحمه الله, qui était un grand faqih hanbali, qui s'appelle Muntaqa al-Akhbar de Al-Majd ibn Taymiyyah. Donc, Shawkani rahimahullah dans le Nail Awtar, il a commenté la parole de Aïcha radiallahu anha en disant لو رأى ما رأينا يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج. Il a dit la parole de Aïcha, si le Nabi alayhi salam avait vu ce que nous avons vu des femmes, il a dit cela signifie, si le Nabi alayhi salam avait vu d'elle le port des beaux vêtements et des parfums doux et des belles parures et de montrer des parties de leur corps. وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات الغلاظ. Donc les femmes, elles commençaient à sortir après le prophète عليه الصلاة والسلام en portant des beaux vêtements dans lesquels, yani, ils ne comprenaient pas des beaux vêtements, yani, c'est un tissu de qualité. Des beaux vêtements, c'est des vêtements qui sont une parure en eux-mêmes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui comportent des motifs, certaines couleurs attirantes, ou là qui montre des parties du corps, ou là qui sert le corps à certains niveaux, et ainsi de suite. Ça qui est voulu. Il n'est pas interdit pour la femme musulmane de porter un vêtement fabriqué avec un tissu de bonne qualité, même de très grande qualité. Il n'y a pas de mal en cela. C'est autorisé du moment qu'elle a les moyens. Lakin, il faut voir l'épaisseur des tissus qui ne soit pas yani transparent. Donc c'est ce que les femmes ont fait après l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, contrairement aux femmes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, Shawkani rahimahullah il poursuit, à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, les femmes sortaient, yani en étant complètement couvertes avec le voile intégral et yani عليهن المرط والأكسية والشملات الغلاظ. Et ils portaient des vêtements avec des tissus épais, donc ils ne laissaient montrer ni la couleur de la peau, car ils ne sont pas transparents, et qui ne montrent pas les formes du corps, car ils étaient épais. Et ça, c'est parmi les conditions de l'hijab, c'est qu'il soit fait en tissu épais. وقال ابن الجوزي رحمه الله ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها. Donc ابن الجوزي dit dans son livre أحكام النساء. ابن الجوزي fait partie des savants qui ont écrit un livre de l'fiqh réservé aux femmes. Il n'est pas le seul. Il y a aussi comment il s'appelle l'élève de Nawawi rahimallah, Ibn al-Attar. Ibn al-Attar aussi a fait un livre, c'est peut-être le plus grand livre qui a été écrit réservé aux femmes, dans lequel il a parlé des règles concernant les femmes. De mémoire, il doit être de 3 volumes. De 3 volumes, ce livre d'Ibn al-Attar. Et celui d'Ibn al-Jawzi, c'est un grand volume. Un seul, mais très grand. Donc dans ce livre, Ibn al-Jawzi dit « يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحْذَرَ مِنَ الْخُرُوجِ مَهْمَا أَمْكَنَا » Il dit qu'il convient à la femme d'être en garde contre les sorties tant que cela est possible pour elle. Autant que possible. Yani, la règle de base pour la femme, c'est qu'elle reste chez elle, dans son foyer, dans son royaume. Et le devoir du mari, c'est de l'aider dans ce sens-là et de lui mettre à sa disposition tout ce qui la met à l'aise dans son foyer et qui l'invite à rester dans son foyer le plus possible. Et elle sort pour ses nécessités, ses consultations et ses visites de médecin, ou pour acheter les choses indispensables. Et elle sort également pour ses besoins. Elle a besoin de prendre l'air, elle a besoin de faire une balade, elle a besoin de marcher. Donc il n'y a pas que les nécessités pour lesquelles la femme sort de chez elle. Elle sort pour les nécessités et elle sort aussi pour les besoins. Ce qu'on appelle le hajat. تخرج للضرورات كالطبيب وغيره وتخرج للحاجات الفسحة التمشي شم الهواء وهكذا. كل هذا الأمر، الأمر في هذا سهل، لكن ما تكثر، ما تكثر من الخروج. الملتيبال سورتي elle évite d'aller dans les magasins ou les choses comme ça. Elle laisse ce fardeau à son mari d'aller faire les courses, d'aller lui acheter tout ce qu'il lui faut. Et elle va uniquement quand elle a besoin d'acheter des vêtements ou des choses pour elle ou pour son foyer. Des choses dont elle a besoin dans son foyer, ou là pour elle, ou là pour ses enfants. Non, lakin, la règle générale pour la femme, c'est qu'elle reste chez elle, comme Allah a dit dans le Coran. Il a dit « وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ » Tenez-vous à vos foyers. Le foyer de la femme croyante, c'est son royaume. إِنْ سَلِمَتْ فِي نَفْسِهَا لَمْ يَسْلَمِ النَّاسُ مِنْهَا. Pourquoi il lui dit de se tenir à son foyer autant que possible? Parce que c'est ça l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça la sunna des épouses du prophète alayhi salam, et des sahabiyat, et des femmes pieuses à toute époque. Et aussi parce que si la femme est préservée en sortant, les gens, et surtout les hommes, peut-être qu'ils ne seront pas préservés. Peut-être qu'ils seront tentés. Mais si elle est contrainte de sortir, il dit « خَرَجَتْ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فِي هَيْئَةِ الرَّثَى » Lakin si elle est contrainte de sortir, elle sort obligatoirement avec la permission de son mari et avec des vêtements, lui il a dit des vêtements usés. Lakin, on va dire des vêtements qui ne sont pas attirants, des vêtements qui remplissent les conditions du hijab shar'i. Si c'est usé, c'est encore mieux pour elle. Lakin, si on dit qu'il lui est autorisé de sortir avec ses vêtements, du moment qu'il respecte les conditions du hijab, alors il ne faut pas qu'elle inverse les choses, qu'elle sorte avec les plus vêtements qu'elle a à l'extérieur, et chez elle, elle porte les vêtements usés. C'est plutôt l'inverse qu'elle doit faire. Ses meilleurs vêtements, c'est pour son foyer. C'est pour quand elle est chez elle, pour son mari. Et dehors, elle se couvre. Comme ça, elle préserve sa personne et elle préserve autrui de la tentation. Yani, des fois, subhanallah, je me dis quand les gens ils doivent entendre ce genre de discours, ils doivent s'étonner. Mais yani, la femme, c'est, les hommes, c'est pas des... yani, ils n'ont pas une envie comme ça tout le temps. Ça, on va y revenir. Ils n'ont pas que cette pensée. On va y revenir. On va y revenir dans les points qui différencient l'homme de la femme. Là, ceux qui pensent que ce n'est pas le cas, parce qu'ils voient la majorité des hommes, wallah al-musta'an, aujourd'hui à notre époque. À force de regarder les femmes, de travailler avec les femmes, d'être tout le temps dans la mixité, illa man rahimallah, ils finissent par ne plus avoir cette grande attirance pour la femme. Lakin l'homme, qui est proche de sa nature humaine saine, il a une très grande attirance pour la femme. Et il se contrôle avec sa religion. Ça c'est halal, ça c'est haram. Ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Lakin l'homme, qui est proche de sa nature humaine saine, il a une très grande attirance pour la femme. Et la femme également, elle a cette attirance pour l'homme. Ça c'est les hommes et les femmes qui sont encore proches de leur nature humaine saine. Lakin a forcément un homme qui voit des femmes partout, qui regarde des séries télévisées, des films où il voit des femmes presque nues, déshabillées, dans la rue, il ne baisse pas son regard. Forcément, cet homme, son envie diminue énormément. C'est pour ça que les hommes de science disent, et ça on en a parlé quand on a parlé des spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam, que les prophètes sont les hommes qui ont l'envie sexuelle la plus forte car c'est eux qui ont le plus de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le plus de piété, et c'est eux qui baissent le plus leur regard par rapport à tout ce que Allah leur a interdit. Et la récompense, elle est du même genre que l'œuvre, al-jaza'u min jinsil amal. Comme il a baissé son regard pour Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il lui a interdit, Allah lui donne une grande force dans ce qu'il lui a autorisé. Et la législation de l'islam, c'est une législation qui est valable pour toute époque, pour tout endroit, depuis sa révélation jusqu'à la fin des temps. طيب. وجعل طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه. Également, donc il a parlé de sa sortie et de l'autorisation de son mari et qu'elle doit se couvrir correctement et d'éviter les vêtements attirants qui attirent les regards par leur couleur, par leur aspect, par leur décoration. Et aussi, elle emprunte des chemins, il a dit à l'empreinte des chemins, yani dans sa sortie, pour, dans les marchés ou la, dans les chemins qu'elle emprunte, elle essaye d'éviter les gens. Elle va vers les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, où il y a le moins de monde possible. Et elle s'éloigne des hommes. Même dans le chemin qu'elle emprunte. Et elle fait attention à ce qu'on n'entende pas sa voix. Donc dans les rues, dans les marchés, tout ça, elle s'éloigne des endroits où il y a du monde, où il y a des hommes. Et elle préfère les endroits où elle sera loin des hommes. Et aussi, elle se garde qu'on entende sa voix. Il y en a la voix de la femme, yani, ça peut être une tentation pour l'homme. La voix, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à la longueur de ses cordes vocales, c'est une voix douce. Wallah al-musta'an. Et il a dit, et elle essaie de marcher sur le rebord du chemin et non pas au milieu. Yani, ce qui est voulu par cette parole de Ibn al-Jawzi, c'est de s'éloigner le plus des hommes. Et ça, on l'a vu dans la salat. Et on va le voir encore, que les meilleurs des rangs, des femmes, c'est les rangs les plus éloignés des hommes. Plus la femme, elle s'éloigne des hommes, plus elle se préserve et plus elle va préserver cet homme aussi de la tentation. Le point suivant qui est le quatrième. Le quatrième, il a dit, Cheikh Fawzan, Hafidhahullah, il a dit, « In kanat il mar'atu wahidatan, saffat wahdaha khalf al-rijal. » Donc lorsque la femme est seule, elle se met toute seule derrière les hommes. Conformément à ce qui a été rapporté dans le hadith Anas, quand Nabi alayhi sallam les a dirigés dans la salat, il a dit, je me suis mis avec l'orphelin, derrière le prophète alayhi sallam. Donc le prophète alayhi sallam était l'imam. Et Anas, avec un orphelin, un garçon orphelin, était derrière lui. Et la femme, la mère de l'orphelin, qui est une femme, qui était une femme âgée, elle s'est mise derrière eux. Et dans l'autre hadith, le même sens. Il a dit, j'ai fait la salat, moi et l'orphelin derrière le prophète, et derrière nous, il y avait ma mère, Umm Sulaym, rapportée par l'imam al-Bukhari. et le précédent rapporté par Bukhari et Muslim. Donc ces hadiths indiquent que quand la femme, elle fait la salat en groupe, que ce soit à la maison ou à la mosquée, si l'imam est un homme, d'abord on va mettre les hommes et les hommes et les garçons, et ensuite on va mettre dans les rangs après les femmes et les jeunes filles. Cheikh Fawzan a dit: "Wa in kana al-hudur min an-nisaa' akthar min wahida." Si les femmes sont plus d'une. Si le premier cas, c'est quand il y a une seule femme, elle se met toute seule derrière le rang des hommes. Et si elles sont plusieurs, alors elles vont se mettre en rang, un seul rang derrière les hommes. Et si elles sont plus nombreuses, il y a besoin de faire plus d'un rang, il n'y a pas de mal. Lakin, elles se mettent toujours derrière les rangs des hommes et des garçons. Donc le Nabi alayhi salam, il plaçait d'abord les hommes, ensuite les garçons, et ensuite les femmes. Les femmes derrière les enfants, derrière les garçons. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها. Donc il a été rapporté de Abu Huraira رضي الله عنه. Il a dit que le messager d'Allah عليه وسلم a dit: le meilleur des rangs d'hommes, c'est-à-dire dans la mosquée, est le premier. وشرها آخرها. Et le pire des rangs des hommes, c'est le dernier. Pourquoi c'est le dernier? Parce que déjà, c'est le plus proche des femmes. Et plus un homme s'approche de la femme, plus il s'approche de la tentation. Plus il est exposé. Et le meilleur des rangs des femmes est le dernier. Pourquoi c'est le dernier? Parce que c'est le rang le plus éloigné des femmes, donc le plus éloigné de la tentation. Et le pire des rangs des femmes, c'est le premier, car c'est le plus proche des hommes, et par conséquent, le plus proche de la tentation. Et ça, c'est dans le cas où il n'y a pas de séparation entre les rangs des hommes et les rangs des femmes, comme c'était le cas à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'y avait pas de séparation entre les rangs des hommes et les rangs des femmes. Les femmes avaient leurs portes et les hommes avaient leurs portes. Et donc les hommes, ils rentraient dans la mosquée, ils se mettaient dans les premiers rangs. Et les femmes, elles arrivaient avec l'approche de la salat et elles se mettent tout derrière, à l'arrière de la mosquée, et elles commencent par former le premier rang par lequel elles commencent à former, c'est le dernier des rangs. Collé au mur à l'arrière de la mosquée. Et ensuite, s'il y a besoin, elles forment un autre rang devant, et vous constatez que plus elles avancent dans les rangs, plus elles se rapprochent des hommes. Et plus les hommes reculent, plus ils vont se rapprocher des femmes. Donc, hada huwa la sagesse derrière cet enseignement du prophète, alayhi salatu wassalam. Là, quand il y a une séparation, les femmes, elles se mettent dans le premier rang. C'est le meilleur pour elle. C'est le meilleur étant donné qu'il n'y a pas, ça coupe la tentation et l'incitation à la tentation entre les deux. Cheikh Al-Fawzan, il commence à hadith, il dit « Fafi al-hadithaini dalilun ala anna al-nisa'a yakunna » في يكن خل يكن صفوفا خلف الرجال. Donc il dit dans l'ensemble de ces hadiths, les deux hadiths qui ont été rapportés, une preuve, il y a dans les deux hadiths une preuve que les femmes doivent se ranger derrière les rangs des hommes. Derrière les rangs des hommes. Et qu'elles ne font pas la salat séparément, si elles sont dans la mosquée. Elles doivent la faire avec les hommes et elles forment des rangs. Ce n'est pas chacune d'un côté. Et malheureusement, dans certaines mosquées, on m'a rapporté ce phénomène. Les femmes, quand elles prient derrière un imam, étant donné qu'elles sont à l'étage, chacune se met de son côté et elle suit l'imam. Et ça, c'est une erreur. Elles doivent former des rangs et faire la salat ensemble derrière cet imam, de la même manière que le font les hommes. Que ce soit une salat obligatoire ou salat tarawih, la salat surrogatoire que nous accomplissons en groupe. Elles doivent respecter les rangs et mettre les talons contre la cheville et aligner les talons et se mettre droite. Tout ce qui est demandé aux hommes est demandé aux femmes dans la formation des rangs. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième, l'avant-dernier qu'il a mentionné, c'est « Ida sahal imam ou fi salat ». Lorsque l'imam oublie quelque chose dans la salat, lorsque l'imam est distrait dans sa salat, il oublie quelque chose. Donc on sait que l'homme, pour alerter l'imam de son erreur ou de son oubli, l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Yusabbih. Il dit Subhanallah. Et si l'homme dit Subhanallah et l'imam ne comprend pas son erreur, à ce moment-là, il est autorisé pour l'homme de parler. Par exemple, il lui dit de parler avec le strict minimum afin de faire comprendre à l'imam son manquement ou son erreur dans la salat, pour qu'il la corrige. Donc il peut lui dire, Nasit Rokur, t'as oublié Rokur. Tu ne comprends pas par tasbih. Mais en général, quand l'imam a un doute, il penche vers le fait d'avoir fait Rokur, il va directement vers Sujoud. Dès que tu lui fais tasbih, il sait qu'il a oublié Rokur. Mais s'il ne comprend pas par tasbih, on peut parler. Ça, c'est pour les hommes. Maintenant, la question, comment les femmes alertent l'imam ? Comment les femmes alertent l'imam si jamais il a un oubli ou une erreur dans sa salat ? Il a dit, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُنَبِّهُهُ بِالتَّصْفِيقِ بِبَطْنِ كَفِّهَا عَلَى الْأُخْرَى. Donc la femme va alerter l'imam par un battement de main, c'est-à-dire en frappant les mains l'une de ses paumes contre l'autre. Comme ça. Une fois, si c'est suffisant. Sinon, elle peut répéter, comme tasbih. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. Comme ça a été rapporté dans les deux authentiques, le Nabi alayhi salatu wasalam a dit, lorsqu'il vous arrive quelque chose dans votre salat, c'est-à-dire un oubli ou une distraction, que les hommes derrière l'imam disent Subhanallah et que les femmes battent des mains.
وهذا إذن إباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب ومنها سهو الإمام وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال.
Donc ceci est une autorisation pour la femme de faire un battement de main dans la salat lorsqu'il y a un oubli de la part de l'imam, parce que la voix, et elle ne parle pas, parce que la voix de la femme recèle de la tentation pour les hommes. C'est pour ça qu'il lui a été ordonné, dit Cheikh, At-Tasfiq. C'est pour ça qu'il lui a été ordonné de battre des mains et non pas de parler. Wa la tatakallam, et non pas de parler. Wa idha sallama al-imam. Donc ça, c'est quand il y a un oubli dans la salat. Maintenant, dès que l'imam il fait salam, il termine sa salat, quel est le comportement rapporté dans le sunna de la femme? Il a dit, il a salam al-imam, quand l'imam il fait salam, yani il termine sa salat,
بادرت النساء بالخروج من المسجد. Les femmes se dépêchent de quitter la mosquée. وبقي الرجال جالسين. Alors que les hommes doivent rester assis. لئلا يدركوا من انصرف منهن. Afin de ne pas rattraper les femmes qui viennent de sortir. Et de ne pas se mélanger à elles. Les hommes doivent laisser un certain temps pour permettre aux femmes de sortir entièrement. Et les femmes doivent se dépêcher et se hâter à sortir dès qu'elles ont terminé leur salat. Et ça, toujours, c'est pour les mosquées où il n'y a pas de séparation entre les hommes et les femmes. Là, s'il y a une séparation, les femmes, par exemple, sont à l'étage et les hommes sont dans un autre étage, il n'y a pas de mal à ce que la femme reste et qu'elle fasse adhkar comme l'homme. Ça, c'est dans le cas où les femmes et les hommes se font la salat dans la même pièce. Car si les femmes restent, les hommes vont les voir. Et ça peut être une cause de tentation. Là, quand il n'y a pas la tentation, la femme rejoint les mêmes règles que l'homme. La femme rejoint les mêmes règles que l'homme. C'est-à-dire, elle reste, elle fait ses adhkar, elle peut faire nawafil si elle souhaite les faire à la mosquée, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est par rapport à ce qui a été rapporté de notre mère, Umm Salama, qu'Allah l'agré. Elle a dit, « Anna nisa'a fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kunna idha sallamna min al-maktouba, qumna wa thabata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. Donc comme ça a été rapporté de notre mère Umm Salama, elle a dit les femmes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, quand c'était la fin de la salat, elles se levaient et elle se levait tout en se hâtant à sortir de la mosquée. Et elle se levait en se dépêchant à sortir de la mosquée. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, cependant, il restait assis. Et les compagnons également, ils restaient assis. Ils se tenaient à leur place un certain temps, comme on a vu pour la sagesse qui a été citée précédemment par Cheikh Vozan, pour permettre aux femmes de sortir et de ne pas se mélanger aux femmes. Et seulement ensuite, Al-Nabi alayhi salam se levait et les hommes se levaient après lui. Quand il voyait le Nabi alayhi salam se lever. Donc il laissait un temps suffisant pour les femmes pour qu'elles repartent chez elles après avoir accompli la salat. قال الزهري فنرى ذلك والله اعلم ان ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء رواه البخاري. Donc l'imam al-Zuhri, un des chouyoukh de l'imam Malik, ce très très grand savant, il a dit que je vois, et Allah est plus savant, yani il a expliqué pourquoi le Nabi alayhi salam est resté assis, ainsi que les compagnons. Il a dit, je vois, wallahu a'lam, qu'ils restaient dans leur place, yani le Nabi alayhi salam, ainsi que les compagnons, et ils ne se levaient pas, afin de permettre aux femmes sortantes de passer. Et qu'il n'y ait pas de mélange avec les femmes. Rapporté par l'imam al-Bukhari. Shawkani, rahimahullah, dit, toujours dans Nail al-Awtar, Al-Hadith, fihi annahu yustahabbu lil-imami mura'atu ahwali al-ma'moumin. Dans ce hadith, il fait une déduction par rapport à ce hadith, qu'il est recommandé à l'imam de respecter
il est recommandé à l'imam de tenir compte de la situation de ceux qu'il dirige dans la salat. والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي الى المحظور. Et de veiller à éviter tout ce qui peut conduire à tomber dans l'interdit. Tout ce qui peut conduire vers l'interdit. Tout ce qui peut conduire vers l'interdit. Et l'interdit, il y a cette fitna. C'est cette fitna. واجتناب مواقع التهم. Et qu'il est préférable également d'éviter et de s'écarter des endroits dans lesquels on peut être accusé à tort et dans lesquels les gens peuvent penser du mal de nous. Donc il ne va pas se lever car les gens peuvent penser qu'il cherche à se rapprocher des femmes ou là à leur parler. Donc on va éviter toutes les choses qui peuvent nous mettre dans des situations d'accusation. وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات. Il y a également dans ce hadith, il déduit que c'est détestable que les hommes se mélangent aux femmes dans les routes, dans les rues, et également, il a dit, et encore pire, dans les maisons. La mixité est interdite partout. Dans les rues, dans les maisons, la femme ne doit pas se trouver dans le même endroit avec des hommes étrangers. Et elle doit faire de son mieux pour éviter ce genre de situation. Et vous savez que Sahabiyat et les épouses du prophète, même pendant Tawaf, peut-être qu'aujourd'hui, la femme aura plus de mal à pratiquer cela. Lakin, en tout cas, ça nous indique cet état d'esprit. Et qu'on ne doit pas prendre les choses à la légère et faire preuve de laxisme. Tant que la femme peut éviter la mixité, elle le fait. Donc je vous disais que les épouses du prophète, pendant le tawaf, elles se mettaient à l'écart afin de s'éloigner des hommes. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Lakin, en tout cas, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que la femme doit toujours veiller à s'éloigner des hommes et de toute forme de mixité autant que possible. Et ça, c'est meilleur pour elle et meilleur pour autrui également. Et après, il va parler de certains points dans lesquels se distingue l'homme de la femme dans la salat, rapporté de Nawawi. Il a dit, « قال النووي رحمه الله ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء. » Il dit que les femmes se distinguent des hommes dans la salat en groupe dans des points. Il a cité quatre. Le premier, « لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال. » Donc la salat en groupe n'est pas fortement recommandée pour les femmes comme pour les hommes. Pour la femme, la salat en groupe est autorisée. Seulement, pour l'homme, elle est obligatoire. Le deuxième, taqifu imamatuhunna wasatahun. Le deuxième point, c'est que la femme qui dirige les autres femmes dans la salat, leur imam, elle se met en plein milieu d'eux, yani dans le même rang. Le troisième point, taqifu wahidatuhunna خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل. Donc la femme, quand elle est toute seule, elle se met derrière l'imam, même s'il n'y a qu'un seul imam et elle c'est une seule femme. L'imam il se met devant et la femme elle se met derrière, contrairement à l'homme. Quand il n'y a que deux personnes, le ma'moum va se mettre à côté de l'imam, il va se mettre à sa droite. Lakin, quand c'est une femme, elle se met derrière l'imam quand même, quand bien même elle est seule. Le quatrième point et le dernier,
إذا صلينا صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولهن. Quand elles font la salat en groupe avec des hommes, les meilleurs des rangs des femmes, c'est les derniers. Alors que les meilleurs rangs des hommes, c'est les premiers. Fin de citation. Et de ça, Cheikh Fawzan dit, on déduit l'interdiction de la mixité entre les hommes et les femmes. Et par la suite, il va citer un point qui concerne Salat al-Eid, que nous allons reporter à la semaine prochaine, bi-idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum. وجزاكم الله خيرا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته